Eh bien, au cours des derniers mois, on a parlé amplement de l'arrivée du passeport vaccinal. Et évidemment, il y a eu une application qui s'est développée par rapport à ça. Et nous, en déficience visuelle, bien, ça a amené des réflexions, notamment à l'Assemblée générale du RAC. Et ça l'a amené la secrétaire du conseil d'administration, Lynn Robichaud, à réfléchir sur le sujet et nous pondre un article dans notre journal de visionnaire. Et on a décidé de faire, suite à ça, bon, de faire une entrevue avec elle pour la puce à l'oreille. Bonjour, Lynn.
Bonjour René.
Donc, Lynn, d'abord, j'aimerais que tu nous parles un peu de l'expérience que tu as vécue lorsque tu as fait la demande de ta preuve vaccinale ou ton passeport vaccinal.
Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai pas d'imprimante et j'ai pas de téléphone intelligent, donc j'ai téléphoné là, à la ligne COVID et j'ai suivi tout le processus, là, le menu qu'on nous indiquait. Pour aboutir au menu où on nous donnait des instructions pour prendre rendez-vous pour recevoir sa première ou sa deuxième dose de vaccin. Et ça m'a rendue un peu confuse parce que je me suis dit, dans le fond, c'est pas ça que je veux parce que mes deux doses, je les ai. Moi, ce que je veux, c'est obtenir le code QR par la poste en format papier. Et je m'ai surpris par trois fois pour finalement me rendre compte que oui, j'étais au bon endroit, mais c'était loin d'être clair, là. Fait que, puis là, ben c'est ça. Quand finalement ça a bien fonctionné, là, j'ai réussi à parler à quelqu'un après quelques tentatives et puis j'ai reçu mon code QR par la poste. Quelque part avant le fameux 15 septembre. J'ai pas testé encore voir si ça fonctionne, là. J'en ai pas encore eu l'occasion. Ben c'est ça.
Et ça, ben, ça nous amène à une réflexion plus globale sur, évidemment, bon, il y a toute l'accessibilité, évidemment, des sites, des applications et une accessibilité plus globale aussi. Tu viens de nous donner ton expérience. Alors, je pense que ce que tu dénotes dans tes écrits, entre autre, c'est la conception des sites. Je pense que ce que tu dénotes, ce que tu dénonces, c'est qu'il faut vraiment que les sites soient conçus et qu'on nous inclue des personnes handicapées lors de la conception des sites ou des applications.
Ben oui, puis pour une raison très simple, c'est que si on est consulté à la base, ben c'est plus facile pour les gens qui mettent les applications en place de savoir qui répond à nos besoins ou pas. Comme ça évite d'avoir à tout recommencer parce que ça fonctionne pas, parce qu'il faut faire des démarches pour dénoncer l'inaccessibilité, justement. Fait que c'est coûteux en temps, puis c'est surtout coûteux en argent aussi, ça. Ça serait bien plus simple de partir du premier coup en se disant, ben, on va consulter, savoir ce que ça prend. Puis après ça, ben, une fois que c'est conçu, de faire des tests avec les mêmes personnes pour vérifier s'il
Les
n'y a
tests
pas eu
utilisateurs.
des tests utilisateurs pour s'assurer qu'il n'y a pas eu des bugs en chemin ou des difficultés qui n'avaient pas été prévues qui se présentent. Voir comment ça peut être contourné.
Ça se fait déjà,
Ça peut.
évidemment, mais je pense qu'il faudrait que ça se fasse de façon systématique, que ce soit peu importe la structure. Comme par exemple au
Ça
RPAJ, on
devient un
travaille.
réflexe.
C'est ça, que ça devienne un réflexe. Faut souligner comme par exemple, on travaille beaucoup, nous, le RPAJ, avec le RTC à ce niveau-là pour des tests utilisateurs. Je donne un exemple. Okay? Alors, il faudrait que ça devienne un réflexe pour toute organisation. C'est ça, dans le fond, ton message.
Oui, puis ce que je dis aussi, si tu saisis bien, c'est que il n'y a pas juste les personnes qui ont une déficience visuelle qui sont pénalisées par le manque d'accessibilité. Il y a beaucoup de groupes de personnes qui se trouvent un peu laissées à elles-mêmes, là, comme les personnes aînées qui n'ont pas nécessairement accès à la technologie, là. Je pense entre autres à ma mère qui a 86 ans. Elle n'a pas l'Internet, puis elle a un téléphone intelligent, mais dont elle se sert très peu, à part pour faire des appels. Donc, puis les personnes sont analphabètes fonctionnels ou qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas accès à un apprentissage facile des nouvelles technologies. C'est faux de penser que tout le monde est rendu au même point. Il y a des gens qu'on aura beau faire tous les efforts possibles, il y en a qui ne seront jamais à l'aise avec la technologie pour toutes sortes de raisons.
C'est ce qu'on appelle la fracture numérique.
Oui, puis je pense qu'il faut trouver une façon d'accommoder ces gens-là. Puis c'est pas non plus un automatisme que parce que je suis une personne non-voyante, fonctionnellement aveugle, que j'habite automatiquement avec quelqu'un, que j'ai toujours quelqu'un à côté de moi qui me suit pas à pas dans toutes les démarches que j'ai à faire dans mon quotidien.
Donc c'est important que ce qui est dans le fond, ce que tu es en train de nous dire, ton message, c'est on veut le faire, les personnes handicapées veulent être autonomes dans la mesure du possible. Et il n'y a pas seulement, il y a évidemment la technologie, il ne faut pas la perdre de vue, on l'a dit tout à l'heure, mais il n'y a pas seulement, il faut trouver les façons les plus simples aussi pour faire en sorte que les gens qui n'ont pas accès à la technologie puissent faire les mêmes démarches.
Oui, puis arriver sensiblement au même résultat sans que ce soit le parcours du combattant, puis que ça prenne des heures et des heures et avoir l'impression, quand on se fait répondre, que, mon Dieu, on n'est pas au même siècle que tout le monde, puis mon Dieu, que ça n'a pas d'allure. Moi, je trouve ça dommage, parce que on est des citoyens comme tout le monde. Moi, je me dis, on consomme des biens comme tout le monde, on participe à la vie sociale comme tout le monde, on fait notre bénévolat, il y en a qui travaillent, on fréquente des commerces, puis à ce que je sache, tu me corrigeras si je me trompe, mais j'ai jamais eu d'exemption de taxes parce que je suis une personne handicapée visuelle.
Tout à fait.
On consomme, puis on paie les mêmes choses que les autres pour les services et les produits qu'on utilise. Je veux dire, c'est peut-être qu'on a moins, on a des revenus peut-être plus faibles, mais on contribue à notre façon. On essaie de participer, d'être présent dans le monde dans lequel on vit, d'y contribuer à notre façon, dans la mesure de nos capacités, de nos moyens. C'est dommage qu'on soit toujours laissé derrière, comme si on était des citoyens de moindre valeur. Moi, ça commence à m'irriter de plus en plus. Je pense que je suis pas la seule. D'ailleurs, on en discutait l'autre jour, si tu te souviens, à l'Assemblée générale du RAC. À un moment donné, on a eu une discussion à la fin de l'Assemblée où on mettait en évidence que c'était quelque chose qui dérange de plus en plus de gens. Il faudrait trouver une façon que ça se corrige, là.
Ben, Lynn, on te remercie beaucoup d'avoir émis ton opinion, autant dans notre journal que de l'avoir fait sur la puce à l'oreille. Et on va sûrement se reparler.
En tout cas, si on peut essayer de réveiller des gens et d'inciter des gens, du moins à y réfléchir, ce sera déjà ça de pris. Puis si on peut arriver à quelque chose de plus concret par la suite, ce sera un gain appréciable, d'après moi.
Ben, merci beaucoup.